Merci beaucoup à vous de nous rejoindre. Il est 7h30. Le journal, Sébastien Legenny, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, l'amertume des jeunes des quartiers après le discours du chef de l'État. Emmanuel Macron a dit tout son soutien aux forces de l'ordre hier soir, mais pas un mot sur les accusations de racisme au sein de l'institution. Reportage à suivre en Seine-Saint-Denis, suivi d'une réaction des syndicats de policiers. Le chef de l'État qui entend aussi tracer un nouveau chemin pour l'après-Covid avec une économie écologique souveraine et solidaire, analyse de notre spécialiste environnement. À suivre également le déconfinement qui s'accélère, mais une grande absente dans le futur plan, la culture, réaction du monde du spectacle. Et puis enfin, cette polémique en Ukraine, un musée sur la Shoah par balle qui propose de se mettre à la place des nazis, reportage depuis Moscou.
Et au micro de Léa Salamé dans 20 minutes, c'est aujourd'hui, je vous le rappelle, l'économiste Thomas Piketty. Rendez-vous à 7h50.
France Inter.
Emmanuel Macron était très attendu hier, Sébastien, sur la question des violences policières et du racisme.
Et pour sa quatrième prise de parole face aux Français, la mise au point a été claire. Les policiers et les gendarmes méritent, je cite, le soutien de la puissance publique et la reconnaissance de la nation. À propos des derniers rassemblements, le chef de l'État a aussi mis en garde contre les communautarismes et les séparatismes. Selon lui, la République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Pas question, dit-il, de déboulonner des statues. Alors, qu'en pensent les jeunes des quartiers directement concernés? Reportage à Pantin de Cécilia Arbona.
Pas un mot du président sur les manifestations dénonçant les violences policières. Très déçu, Chiab Mohamed, étudiant en BTS comptabilité gestion, a tourné en dérision les propos d'Emmanuel Macron jusqu'à imaginer comment lui et ses collaborateurs avaient préparé le discours.
Ils doivent se dire ça, ils doivent se dire ouais, les gars, en fait, il y a du racisme, je crois, en France. Ils le savent, mais ils ferment les yeux dessus. Quand un policier met sa main dans ma poche ou dans ma sacoche, et je lui dis qu'il n'a pas le droit, il me dit t'es pas content, tu vas finir au poste.
Nous, on aimerait beaucoup que les policiers viennent, ils nous parlent gentiment.
Mais on sait tous que c'est impossible.
On sait tous que c'est
impossible.
C'est... Combien de fois ils m'ont fait faire des gardaves gratuitement? Il y a eu un vol là-bas, donc Wassil.
Et pourtant, Wassil, 20 ans, a décroché un CDI chez un fournisseur pour opticien.
Le dernier CV que j'ai fait, j'ai pas mis de photo de moi. J'ai quand même la gueule de l'arabe.
Malgré ses embûches pour accéder à un travail, Chiab est opposé aux statistiques ethniques qui pourraient dériver vers des quotas de travailleurs.
Genre là, on va mettre tant d'Algériens, là tant de Marocains, là tant de Tunisiens, non. Ils ont déjà fait les statistiques de quotas vis-à-vis des handicapés. Nos origines et notre couleur de peau est un handicap.
Et on va continuer de se battre pour créer notre avenir nous-mêmes.
Pour montrer aux policiers qu'ils ont réussi et qu'ils n'ont plus peur de se manger, comme ils disent, un énième contrôle de routine.
Voilà, reportage de Cécile Arbonne. Notez que le chef de l'État s'est engagé à prendre de nouvelles décisions fortes pour l'égalité des chances, sans en dire davantage à ce stade. De l'autre côté, le soutien de l'Élysée aux forces de l'ordre a-t-il suffi à rassurer les policiers? Quelques centaines d'entre eux se sont encore rassemblés hier soir à Paris sur l'esplanade du Trocadéro. Le syndicat Synergie, de son côté, prend acte des propos du chef de l'État, mais attend la suite. Patrice Ribeiro est son secrétaire général.
C'est un début, et je pense que si nous n'avions pas manifesté notre mécontentement sous ces fenêtres vendredi, eh bien, il ne l'aurait pas fait. Donc oui, c'est un début. Maintenant, nous attendons, comme nous l'avons demandé, à être reçu par le président de la République pour lui expliquer quelle est la difficulté de notre quotidien, que le police bashing porte malheureusement ses fruits avec une violence qui est endémique. Donc on a besoin de le dire au président de la République d'une part, et d'autre part qu'il nous réarme judiciairement, matériellement, c'est-à-dire qu'il nous donne les moyens de travailler dans des conditions décentes, avec des caméras piétons en nombre, avec des véhicules qui soient à la hauteur, avec du matériel qui soit à la hauteur. On a besoin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté au plus haut niveau de l'État.
Patrice Ribeiro de Synergie avec Jean-Philippe Deniaux. Je rappelle que Sibent Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, sera l'invité du grand entretien à 8h20.
Pour l'instant, 7h34, le chef de l'État, Sébastien, qui accélère sur la dernière phase du déconfinement.
Oui, il a préféré entamer la troisième phase plutôt que prévu une semaine plus tôt. Toute la France passe donc en zone verte dès ce matin, sauf Mayotte et la Guyane. Les écoles et les collèges accueilleront tous les élèves à partir du 22 juin. Le protocole sanitaire pourrait y être assoupli dès cette semaine. Les cafés et les restaurants d'Île-de-France vont pouvoir rouvrir ce matin et pas seulement en terrasse. Le second tour des municipales se tiendra bien le 28 juin. Et enfin, les visites en EHPAD sont de nouveau autorisées. Accélération donc du déconfinement, mais aussi un nouveau pacte lancé par le chef de l'État hier soir. Il faut, selon lui, reconstruire une économie forte, écologique, souveraine et solidaire, avec des secteurs clés qu'il entend développer, comme l'industrie verte ou la rénovation thermique. Des propositions directement inspirées de la Convention citoyenne sur le climat, mais qui restent encore très floues, Cécilia Quiré.
La relocalisation de l'économie, la rénovation thermique des bâtiments, des transports moins polluants, les 150 citoyens de la Convention pour le climat et les ONG reconnaîtront ici quelques-unes de leurs propositions. La rénovation thermique obligatoire est notamment une mesure phare de la Convention climat, car le secteur du bâtiment est à l'origine de 25% des émissions de CO2. L'urgence est par exemple de rénover 6 à 7 millions de passoires thermiques d'ici 2050. Ce serait indispensable pour atteindre la neutralité carbone et cela permettrait de créer des dizaines de milliers d'emplois non délocalisables. Mais le secteur des transports est responsable de 30% des émissions de CO2. Il est donc incontournable. Or, sur ce sujet, les ONG n'ont pas manqué de critiquer ces derniers jours les 15 milliards d'euros accordés par le gouvernement au secteur aérien ou les 8 milliards pour l'automobile. Elles attendent des mesures concrètes dans le projet de loi de finances rectificative. Le président a d'ailleurs promis de s'adresser à nouveau aux Français en juillet pour préciser ce nouveau chemin lancé. Le plan de relance est prévu pour la rentrée.
Célia Kir. Et en revanche, parmi les grands oubliés du discours d'hier soir, le monde de la culture et du spectacle. Pas un mot sur la réouverture des salles. Écoutez la déception de Malika Seguino, directrice générale du PRODIS, le syndicat national du spectacle musical et de variété.
Pour le secteur du spectacle vivant, nous restons toujours dans l'attente d'être déconfinés, car notre secteur reste, lui, bien évidemment, toujours interdit d'activité. Et nous avons, nous aussi, l'envie de reprendre. Nos producteurs de spectacles ont envie de créer, les artistes ont envie de remonter sur scène, les équipes ont envie de reprendre, mais pas dans n'importe quelle condition. On ne peut pas simplement nous dire « vous pouvez reprendre sous condition d'une distanciation physique qui entraîne automatiquement une réduction de votre jauge ». C'est pour cela que nos entreprises se sont fixées un cap, c'est septembre, avec une reprise pour tout le monde, en jauge pleine, sans distanciation physique, avec peut-être le port du masque. En tout cas, il est important pour nous de pouvoir permettre de faire vivre aux spectateurs cette expérience unique de communion avec nos artistes sur scène.
Malika Seguino, jointe par Isabelle Pasqui. À l'étranger, après 3 mois d'isolement, plusieurs pays européens rouvrent leurs frontières. C'était déjà le cas en Italie depuis près de 2 semaines. Mais à partir de ce matin, l'Allemagne, la Belgique, la France et la Grèce, par exemple, rétablissent la libre circulation avec tous les autres pays de l'Union européenne. L'Espagne attendra encore un peu avant d'ouvrir, pas avant le 21 juin. À l'étranger, cette polémique qui monte autour d'un projet de musée très controversé. On parle ici du futur musée de Babinyar, ce site majeur de la Shoah. La Shoah par balle durant la Deuxième Guerre mondiale. En septembre 41, plus de 34 000 juifs soviétiques y ont été tués en 36 heures par les nazis. Le cinéaste russe Ilya Kerjanovski envisage, avec l'aide de techniques vidéo et numériques, de mettre les visiteurs dans la peau des bourreaux ou des victimes. Correspondance de Claude Brouilloux à Moscou.
Défenseur d'une scène où le public doit être le plus possible en immersion, Ilya Kerjanovski, Lion d'Argent à Venise en 2008, s'est attiré les critiques du monde culturel ukrainien à travers notamment une pétition présentée le mois dernier qui demande la révision de son projet pour Babinyar. Le cinéaste russe se défend en considérant que l'histoire est tellement effrayante que la visite ne peut pas ne pas être effrayante. Pour Bolislav Kapultin, porte-parole de la communauté juive d'Odessa, le projet de Kerjanovski, qui propose par exemple aux visiteurs de porter des lunettes de réalité virtuelle pour mieux capter les ressentis des victimes ou des bourreaux de l'époque à Babyn Yar, ce projet, dit-il, va trop loin.
Je pense qu'on ne peut pas être d'accord avec ceux qu'on n'apprécie pas. Il y a ceux qui apprécient et ceux qui n'aiment pas du tout. Ce que je peux dire, si on doit visiter un tel musée, en regardant le show, et si on veut poursuivre des objectifs éducatifs, ça n'a pas de sens. C'est un cimetière. Il faut le laisser en paix. Il faut faire comme les musées à Berlin ou à Washington. On doit faire comme ça.
La réalisation ou non du projet de Kerjanovski à Babyn Yar dépendra aussi des décisions de ses principaux financeurs, parmi lesquels l'oligarque Mikhail Friedman, banquier fondateur du Congrès juif russe, qui possède aussi les nationalités ukrainienne et israélienne. Moscou, Claude Bruyot, France Inter.
Et encore dans l'actualité internationale, la condamnation cette nuit de l'une des plus célèbres journalistes philippines, Maria Ressa, pour diffamation. Ancienne correspondante de CNN, elle est poursuivie pour de nombreux articles très critiques envers la politique du président Duterte. Elle a été déclarée coupable et risque jusqu'à 6 ans de prison.
Et à 7h40, on revient en France pour terminer, Sébastien, avec du baby-foot en version humaine.
Oui, ça se passe au collège de Cossé-le-Vivien, en Mayenne précisément. Ici, pour respecter les gestes barrières, des collégiens ont inventé une nouvelle façon de faire du foot. En effet, ils font du baby-foot, mais grandeur nature, du baby-foot humain, que nous explique Germain Treille.
Alors c'est très simple, il y a un petit terrain clôturé, deux cages, des cordes, on s'y accroche pour se déplacer latéralement, et les élèves se retrouvent à la place des joueurs miniatures, très populaires dans les bars, et pas besoin d'être un champion du ballon rond.
On se rentre plus dedans, quoi. C'est moins de contact.
Mais c'est rigolo.
Oui, c'est plus drôle. C'est mieux de faire un peu de passes, jongles et tout, ça change.
C'est déjà mieux que de rien avoir.
Ce qui manque aussi, c'est de reprendre le foot aussi.
Vous touchez le ballon déjà, donc c'est le principal.
Un bon moyen de s'amuser, de se défouler à la pause de midi sans trop s'approcher les uns des autres.
Gel hydroalcoolique en rentrant, en sortant, et on nettoie les cordes désinfectants entre chaque rotation.
Vu qu'on n'a pas les babies, là c'est encore mieux, c'est humain, c'est... Je trouve ça vraiment bien. On a un espace réglementé comme des vrais joueurs de baby-foot. Enfin, c'est génial.
Un projet très original, hein, car depuis la réouverture du collège, les activités sont évidemment limitées à cause du Covid-19, explique le chef d'établissement.
Le protocole sanitaire, il est quand même assez lourd. On essaie de trouver des idées originales pour motiver les élèves sur le temps de récréation. Il faut se réinventer sans cesse, donc on essaie au quotidien dans ce contexte si particulier.
Et pour celles et ceux qui n'aiment ni le baby ni le foot, le vrai, eh bien le collège Saint-Joseph a mis en place des jeux culturels et musicaux, histoire cette fois de muscler le cerveau.
Voilà le reportage de Germain Treille de France Bleu Mayenne, vidéo, photo à retrouver sur francebleu.fr.
Sébastien Legénie, merci.